Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Bonjour chez vous, le podcast des séries cultes. Aujourd'hui, pour inaugurer ce podcast, on commence par la série dont le gimmick Bonjour chez vous a donné son nom à cette chaîne. L'expression série culte a quasiment été inventée pour elle. Il s'agit bien sûr du prisonnier. À travers de ce premier podcast, je vais évoquer l'histoire et spoiler certains épisodes. Je vous recommande donc de découvrir la série avant d'écouter ce podcast. Ensuite, je vais aborder la partie production et casting. Et enfin, je vais analyser en détail toutes les thématiques de cette série. Nous sommes en septembre 1967. Vous êtes un citoyen de Sa Gracieuse Majesté britannique et vous sortez d'une grosse journée de travail. Vous vous installez confortablement sur votre canapé, le thé à la menthe devant vous est fumant. Vous allumez la télé sur la chaîne ATV et vous vous réjouissez de regarder le premier épisode de la nouvelle série de votre agent secret favori, John Drake, joué par Patrick McGowan. Vous avez suivi avec passion toutes ses aventures dans Danger Man, une série très populaire qui a fait de McGowan une vedette du petit écran. Ce que vous allez découvrir durant les prochaines minutes va complètement vous dérouter au point de créer un petit scandale au Royaume-Uni. Vous découvrez une Lotus surbaissée au capot jaune qui fonce à toute allure dans un Londres complètement désert. Au volant, votre agent secret favori, déterminé comme jamais. Il se gare dans un parking souterrain et marche le long d'un très long couloir. Arrivé devant une double porte, il les ouvre violemment et vient jeter sa lettre de démission en tapant du poing sur le bureau de son supérieur. Reparti furieusement avec sa Lotus, il arrive devant chez lui, sans remarquer une grosse berline noire d'où sort un personnage au look de croque-mort. Éreinté, il s'affale sur son canapé sans apercevoir le gaz soporifique projeté par le trou de sa serrure. Il se réveille quelques heures plus tard avec un gros mal de tête. Apparemment, rien n'a changé autour de lui. C'est son canapé, sa lampe, ses tableaux. Il se dirige lentement vers la fenêtre, tire le store et découvre halluciné qu'il n'est plus à Londres mais au milieu d'un village totalement baroque. Il sort de chez lui et découvre que sa maison fait partie d'un joli petit cottage. L'agent secret, dont on ne connaîtra jamais le nom, ni même s'il est vraiment un agent secret, mais j'y reviendrai plus tard, donc l'agent secret va explorer les environs et découvrir tous les lieux et personnages mythiques du village qui reviendront régulièrement à chaque épisode. Ce premier épisode s'intitule précisément « L'arrivée » et de nombreuses séquences seront utilisées pour le générique de la série qui fait pas moins de 2 minutes, ce qui est plutôt long pour un générique, et je reviendrai sur sa musique particulière et plein d'autres anecdotes dans la partie production. Je vous propose donc d'explorer avec le prisonnier les différents lieux et personnages de la série. On part bien sûr de sa petite maison en surplomb du village, entourée de maisons quasi identiques, dont les portes s'ouvrent et se referment toutes seules au passage des habitants. Il s'agit d'un village de bord de mer, au relief très accidenté, bâti à flanc de falaise, avec des monuments baroques et hétéroclites, qui donnent une ambiance totalement hors du temps au lieu. Je vous parlerai en détail de l'histoire de Portmeirion, le vrai nom du lieu de tournage, dans la partie production. Le prisonnier tente tout d'abord de joindre Londres depuis une cabine téléphonique, mais l'opératrice ne peut lui passer que des communications internes au village. Il se fait ensuite conduire dans une petite voiturette électrique pour découvrir les alentours, mais son taxi lui refuse d'aller au-delà des limites du village. Il se retrouve ensuite dans le magasin du village qui reviendra dans plusieurs épisodes. À cette occasion, on entend le marchand prononcer pour la première fois le célèbre « Bonjour chez vous »« Be seeing you » en VO, en saluant avec son chapeau.
Bonjour chez vous.
Ce magasin vend des cartes de la région, mais quand le prisonnier en consulte une, il se rend compte que seul le village est représenté. Une fois rentré chez lui, il est appelé par celui qui semble diriger le village et se fait appeler le numéro 2. On découvrira ainsi le grand bureau circulaire et futuriste du numéro 2, avec le fameux fauteuil en forme d'œuf, typiquement 70s, qui semble sortir du plancher, ainsi que dans un coin, le non moins fameux grand bi. On va aussi très vite découvrir le fameux rôdeur, qui poursuit un habitant apparemment sans histoire sous les yeux du prisonnier. Il s'agit d'une énorme et menaçante boule blanche, apparue de nulle part, qui semble faire des cris quasi animales, flotte dans l'air, puis se rue vers sa victime avant de l'étouffer dans d'atroces souffrances. Par la suite et dans le générique, on verra que le rôdeur est d'origine subaquatique et qu'il est capable également de poursuivre ses proies dans la mer. Cette séquence permet aussi de découvrir la salle de contrôle futuriste qui est située sous le grand dôme et qui semble piloter le rôdeur. On y voit des surveillants assis de chaque côté d'une étrange grue qui se balance et tourne autour d'une carte du village et surveille le moindre de ses habitants. Pour ceux qui ont vu la série Westworld de Nolan et Joy, on pense à la même salle circulaire avec la carte du parc au centre et les surveillants autour, quelques 50 ans plus tard. Connaissant un peu la culture série de Nolan et Joy, je dirais que c'est un hommage. D'ailleurs, le parc et le village ont de nombreuses similitudes que j'évoquerai peut-être dans un futur podcast sur Westworld. Mais revenons au premier épisode du prisonnier. Rescapé du rôdeur, le prisonnier se rend furieux chez le numéro 2 pour découvrir le gimmick de la série, à savoir que le numéro 2 a été remplacé par un nouveau numéro 2 et dorénavant ce sera la règle pour chaque épisode, sauf les tout derniers.
Où est-il? J'ai pris sa place. C'est moi le numéro 2 maintenant.
Où est le numéro 1?
Vous n'aurez toujours affaire qu'à moi ici.
Le numéro 2 sera incarné par des acteurs et actrices différents à chaque fois. Je reviendrai en détail sur ce gimmick dans la partie casting. Le nouveau numéro 2 baptise d'ailleurs notre prisonnier du numéro 6, en lui expliquant que chacun ici porte un numéro pour simplifier les démarches administratives. Je reviendrai dans la partie consacrée aux thématiques sur la symbolique de ce fameux numéro 6. En fin d'épisode, on va trouver le schéma récurrent qui fait vraiment tout le sel de cette série d'enfermement au dehors, à savoir l'évasion presque réussie, mais finalement ratée. En fait, et là on touche vraiment au cœur de cette série culte, c'est qu'au fur et à mesure des épisodes, on supportera de moins en moins la prison géographique, mais surtout psychologique, que subit le prisonnier. On se sentira comme lui enfermé dans ce village. Et bien sûr, c'est totalement voulu par les showrunners qui ont voulu créer une allégorie très militante de notre monde moderne. Mais j'y reviendrai en détail dans la partie consacrée aux thématiques. Du coup, quand le prisonnier échafaude des plans tous plus malins les uns que les autres pour s'échapper, on s'échappe avec lui. Et quand il se fait reprendre in extremis, on reste soi-même frustré de ne pouvoir s'échapper du village ou de notre propre lieu de vie. Là, dans ce premier épisode, il subtilise l'hélicoptère dans lequel le numéro 2 lui avait fait faire un premier survol du village. Il décolle rapidement et on découvre avec lui des plans aériens inédits du village, et on aperçoit même la campagne au loin. Bref, on souffle enfin, on va s'éloigner enfin de ce village prison. Mais malheureusement, comme à chaque fois, c'est la douche froide. Ici, c'est simplement la salle de surveillance qui reprend le contrôle des commandes de l'hélico, et notre prisonnier a beau agiter le manche dans tous les sens, l'hélico se repose inexorablement à son emplacement initial. Et l'épisode se termine comme chaque épisode et comme le générique, avec une grille de prison qui se referme devant le visage du prisonnier. L'épisode suivant, le carillon de Big Ben, est construit comme la plupart des prochains en deux parties. Dans la première partie, on découvre un événement se déroulant au village et qui permet d'en découvrir un peu plus sur les us et coutumes de ces drôles d'habitants. Et dans la deuxième partie, on assiste à une des multiples tentatives d'évasion avortées du numéro 6. L'événement est un concours artistique dans lequel le numéro 6 se démarque avec une œuvre totalement abstraite, alors que tous les habitants, sans exception, ont peint un tableau représentant chacun le numéro 2 du moment. En fait, l'œuvre abstraite se révélera être la structure d'un bateau, lui permettant de s'enfuir par la mer en pleine nuit, avec la complicité d'une femme, la numéro 8, qui sera une des rares habitantes à lui révéler son vrai prénom. Cette femme lui affirme que le village est proche des côtes polonaises. Elle lui offre une montre et lui promet un voyage sur un cargo en le cachant dans une caisse de transport. Comme quoi, Carlos Ghosn a dû regarder le prisonnier étant jeune. On suit le voyage qui dure des heures uniquement du point de vue du prisonnier enfermé et ballotté dans sa caisse qui ne peut que se fier aux différents bruits extérieurs comme le bruit des vagues ou le bruit d'un réacteur d'avion. C'est d'ailleurs un très bel effet de réalisation de cet épisode. Il parvient finalement à Londres, où il sort enfin de sa caisse pour se retrouver dans le bureau de son ancien supérieur, un colonel, ce qui pourrait aussi bien laisser penser à l'armée qu'au service secret. Le colonel lui demande avec insistance pourquoi il a démissionné et disparu si longtemps. L'épisode se termine avec un twist assez génial. Le numéro 6 entend les 8 coups du carillon de Big Ben, alors que sa montre, normalement en décalage horaire avec la Pologne dont il est parti, indique également 8 heures.
D'accord.
Bien. Pourquoi avez-vous démissionné?
Je vais vous le dire. Big Ben indique 8 heures.
Il découvre alors que le carillon et les bruits de Londres proviennent en réalité d'un haut-parleur caché derrière le rideau et qu'il est resté finalement au village. Dans le troisième épisode, intitulé A, B et C, on voit pour la première fois le numéro 2 recevoir un appel de son supérieur sur un téléphone rouge. On suppose bien sûr qu'il s'agit du numéro 1. La trame de cet épisode fait irrésistiblement penser à certains épisodes de Black Mirror. En effet, on y voit le numéro 6 totalement drogué vivre une sorte de rêve mental. Ses pensées sont retranscrites directement sous forme d'images subjectives sur un écran de contrôle pour le numéro 2. L'idée du numéro 2 est d'observer les réactions du numéro 6 face à trois personnages, A, B et C, qui sont des personnages qu'il a croisés dans sa vie avant sa démission. Parmi eux, il y a une espionne, ce qui renforce notre conviction que le numéro 6 est bien un ancien agent secret lui aussi. Pour une des rares fois, le numéro 6 parvient à retourner la situation à son avantage en orientant le scénario mental pour finalement totalement discréditer le numéro 2. L'épisode suivant, Free for All, Liberté pour tous en français, est un des plus célèbres de la série avec celui sur le jeu d'échecs. Ici, il s'agit de l'organisation d'élections entre guillemets libres pour la succession du numéro 2, joué comme chaque fois par un nouveau personnage. On va ainsi pouvoir assister à la campagne du numéro 6 contre le numéro 2, le numéro 6 espérant ainsi, en contrôlant le village, pouvoir s'en échapper. Je ne résiste pas au plaisir de vous diffuser un petit extrait d'un discours plein d'ironie et de satire sur les hommes politiques de tous bords, prononcé par le numéro 6.
J'ai l'intention de découvrir qui sont les prisonniers et qui sont les gardiens. Je me présente comme numéro 2 dans ces élections.
Au final, le numéro 6 est élu haut la main. On lui adjoint une assistante qui le conduit dans la salle de contrôle, d'où il appelle tous les habitants à s'enfuir, mais sans susciter leur moindre réaction. Puis il appuie frénétiquement sur tous les boutons des panneaux de contrôle, mais sans plus d'effet là non plus. Finalement, il est assommé par les gardes et découvre que son assistante est en fait la nouvelle numéro 2. C'est d'ailleurs intéressant, car c'est la première fois, et ce ne sera pas la dernière, que le numéro 2 est incarné par une femme. Dans le cinquième épisode, Double personnalité, le numéro 6 va affronter un double de lui-même. Il va se retrouver face à un sosie embauché par le village. Dans l'esprit des dirigeants du village, il s'agit de le manipuler une nouvelle fois en lui faisant croire qu'il est devenu un autre. Et ça fonctionnera à tel point que le numéro 6 ne parviendra plus à se reconnaître lui-même. Au passage, il faut noter la prouesse de la réalisation et du jeu d'acteur de McGowan qui bien sûr joue les deux rôles. Voilà, je vous ai détaillé les cinq premiers épisodes du Prisonnier car il s'agissait assurément des plus intéressants. Mais pour la suite, je vais évoquer rapidement quelques épisodes mythiques ou remarquables parmi les 17 que comprend la série. L'épisode 9, Échecs et Mat, est totalement mythique, car on y découvre une partie d'échecs grandeur nature dans laquelle le numéro 6 joue le rôle d'un pion, ce qui bien sûr est une allégorie de sa situation de prisonnier du village qui ne contrôle rien comme un simple pion aux échecs. L'épisode 14, Musique douce, est totalement atypique de la série et est particulièrement déroutant pour le fan qui a suivi assidûment les 13 premiers épisodes. En effet, il se déroule quasi exclusivement dans un décor de Far West, avec tous les codes du western, les chevaux, le saloon, les bagarres et bien sûr les duels au revolver. Mais bien sûr, tout ça n'est qu'une illusion organisée par les dirigeants du village. L'épisode 15, La mort en marche, est totalement décalé lui aussi par rapport à l'ambiance habituelle de la série. Il s'agit d'une histoire très théâtrale avec des personnages très caricaturaux, parmi lesquels un joueur de cricket, le numéro 6 déguisé en Sherlock Holmes, un sosie de Napoléon, une blonde incendiaire d'abord vamp, puis se transforma en soldat mitraillant tout ce qui bouge. Bref, on est en plein délire pop. Et c'est ce qui rend cet épisode si savoureux, sachant qu'il a été quasiment oublié à chaque rediffusion télé. Les deux épisodes finaux s'intitulent Il était une fois et le dénouement. Ces deux épisodes ne sont en fait qu'une seule et grande histoire censée clôturer la série, avec un numéro 2 particulièrement intrigant, joué par le grand Léo McKern, qu'on avait déjà vu en numéro 2 dès le deuxième épisode, Le Carillon de Big Ben. L'ambiance est totalement décalée là aussi, comme pour les deux épisodes précédents, et je vous expliquerai pourquoi ces quatre épisodes sont si particuliers dans la partie production. Ici, on est longtemps enfermé dans un huis clos, dans un décor de chambre d'enfant qui se transforme ensuite en école, puis enfin en prison. Enfin, on découvre des cavernes sous le village, un improbable ascenseur transparent, un tribunal grandiose, et même une fusée qui va décoller au milieu du clocher du village sur les notes pop de la toute dernière chanson des Beatles de l'époque, All You Need Is Love. Mais j'en arrive au plus gros spoiler de mon podcast. Qui est finalement le numéro 1 dans ce dernier épisode? On voit le prisonnier qui tient enfin le numéro 1. Il arrache un premier masque pour découvrir un visage de reptile que V va recycler 20 ans plus tard. Puis finalement, il arrache un deuxième masque qui révèle son propre visage. Donc finalement, oui, le numéro 1, c'est le prisonnier lui-même. Ce fut un scandale pour les téléspectateurs de l'époque. Il n'en restait déjà plus beaucoup, les audiences ayant déjà bien décliné. Ils attendaient avec impatience de découvrir qui était le grand méchant de cette série, et ils n'ont absolument pas saisi l'allégorie véhiculée par McGowan. À savoir que vous êtes prisonnier de vos propres pensées. Vous êtes prisonnier de vous-même. Mais j'y reviendrai plus en détail dans la partie thématique. La dernière séquence voit le prisonnier s'échapper enfin du village en compagnie du majordome et rejoindre Londres sur l'air gospel Dry Bones. À Londres, il retrouve sa fameuse Lotus et parcourt la ville comme au tout début de la série. Mais au moment de déposer le petit homme devant chez lui, on aperçoit une grosse berline noire et sa porte fait un bruit caractéristique de la salle de contrôle du village. Bref, vous l'aurez compris, tout recommence comme au début dans une boucle perpétuelle. Je vous propose maintenant de passer à l'évocation de la production de la série. Et pour commencer, quelques coulisses et anecdotes sur le générique de la série. Le générique est devenu aussi culte que la série. Il dure presque 2 minutes, ce qui est plutôt long pour une série télé, mais surtout il condense toute l'histoire de la série en quelques séquences choc qui sont toutes extraites du premier épisode. La musique fait beaucoup pour l'ambiance de ce qui ouvre chaque semaine l'épisode hebdomadaire. McGowan trouvait que la première version de la musique manquait encore de punch, et il a fait rajouter des éclairs qui tonnent et qui renforcent encore l'ambiance. Lorsque McGowan donne sa lettre de démission, son supérieur hiérarchique est joué par George Markstein, le producteur de la série avec McGowan. Certaines séquences, comme celle où on le voit courir sur la plage au crépuscule, ont été tournées spécialement pour le générique. Une petite anecdote au passage, c'est bien la doublure de McGowan qu'on voit en fait courir sur la plage et crier « Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre », car l'acteur s'était foulé la cheville en répétant précisément cette scène. J'en profite pour rendre hommage à un grand comédien doubleur français qui prête sa voix de Stentor à McGowan et qui doublera également Robert Conrad, le fameux James West. Il apporte beaucoup d'intensité et de mystère à la version française, car il faut bien reconnaître que la voix originale de McGowan est un peu plus haut perché et un peu plus nasillarde. Je vous laisse comparer ces deux extraits.
I am not a number, I am a free man.
Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre.
Dernière coulisse de ce générique, le fameux rôdeur qui nous faisait tellement frissonner dans notre enfance avec son cri particulier, nous fait s'interroger sur le fait qu'il s'agisse d'une créature ou bien d'un objet. En fait, il s'agissait tout simplement d'un ballon sonde météo qui était tiré manuellement par des câbles invisibles, le tout étant passé en accéléré à l'image. Passons maintenant aux coulisses de la production de la série. À ma connaissance, c'est la seule série de l'histoire qui est vraiment l'œuvre d'un seul homme. Patrick McGowan. En effet, McGowan cumulait le rôle principal, bien sûr, mais était aussi le patron de la société qui produisait la série, la société Everyman Film. Il était également l'inspirateur de la plupart des scénarios, notamment ceux des quatre derniers épisodes, particulièrement décalés et intrigants. Et enfin, pour couronner le tout, il a réalisé lui-même quelques épisodes. Certains acteurs comme Peter Falk, le célèbre Columbo, ont également énormément influencé leurs personnages. Mais Falk n'était ni l'auteur ni le producteur, même s'il a lui aussi réalisé quelques épisodes, d'ailleurs pas les meilleurs, pour sa série. Il y a aussi certains auteurs comme Rod Sterling, qui apparaissait dans les ouvertures et fermetures de la quatrième dimension, et qui était le producteur et le showrunner de la série, mais il n'était pas l'acteur principal et n'avait aucun talent de réalisateur. Aujourd'hui, être à la fois showrunner, producteur et acteur principal semble totalement improbable, mais c'est bien ce qu'a assumé McGowan dans les années 60. Pour revenir à la production du Prisonnier, c'est Lew Grade, le grand patron d'ATV, qui a laissé totale liberté de création à McGowan et à sa société. Cela s'explique parfaitement par le succès énorme rencontré par la série précédente de McGowan, Danger Man, qui avait fait les beaux jours des audiences de la chaîne de 1962 à 1966. Sans cette liberté, McGowan n'aurait certainement pas pu créer ce petit chef-d'œuvre. Par contre, il faut savoir que la production a été extrêmement chaotique. Ce n'est pas pour ternir la grandeur de l'œuvre et de l'homme, mais McGowan était réputé très exigeant sur le tournage. Il faut bien penser qu'il était à la fois le patron de tous les acteurs, réalisateurs et opérateurs via sa société de production, et que donc il avait tout pouvoir. Et disons qu'il en profitait un peu, et qu'il était très exigeant, voire tyrannique selon certains témoignages. Je reviendrai plus loin sur les audiences et les quatre derniers épisodes, mais simplement une petite anecdote qui reflète bien le pouvoir absolu de McGowan et qui se rapporte à l'épisode 14, Musique douce en français. Cet épisode se déroule presque exclusivement dans une ville typique des westerns américains, avec des chevaux, le saloon, les duels au revolver, tout ça totalement incontournable pour un western. En fait, il apparaît que McGowan rêvait tout simplement de tourner dans un western, et il a tout simplement assouvi ce désir via un épisode du Prisonnier, sa série, sachant, attention spoiler, qu'à la fin, on comprend que c'était une simulation organisée par le numéro 2 pour tester une nouvelle fois les nerfs du numéro 6. Toujours dans les coulisses de la production, évoquons maintenant le fameux village, qui n'est pas qu'un simple décor de carton-pâte comme pourrait le laisser penser l'aspect hétéroclite et baroque de ces bâtiments. Ce village existe réellement au nord du pays de Galles. Il s'agit du village de Portmerion, qui a été créé en 1929 par Sir William Ellis. Ce dernier avait parcouru le monde entier et voulait réaliser un condensé de toutes les architectures qu'il avait découvertes et appréciées au cours de ses nombreux voyages. Cela explique le côté baroque et hétéroclite des bâtiments. L'ensemble est vaguement d'inspiration florentine, avec notamment la place du village, le clocher ou le dôme principal qui ressemble fortement au Duomo de Pise. À côté de cette architecture typiquement italienne, on retrouve des petits cottages britanniques typiques, comme la maison du numéro 6. Aujourd'hui encore, le village de Portmeirion, qui était déjà très touristique dans les années 50-60, est devenu un must-see pour les Britanniques et les fans du monde entier fascinés par la série. Il existe d'ailleurs une boutique à Portmeirion exclusivement dédiée à la série et qui propose de nombreux produits dérivés que j'évoquerai à la fin de ce podcast. L'étrangeté de l'architecture du village rajoute beaucoup à l'atmosphère oppressante et vénéneuse de la série. Tous les extérieurs de la série ont été filmés sur place avec tous les problèmes climatiques que cela pouvait poser. Par contre, bien sûr, tous les intérieurs, la maison du numéro 6, la salle de contrôle, le bureau circulaire avec son siège en forme d'œuf du numéro 2, ont tous été filmés et créés en studio près de Londres. C'est le cas aussi de toute la partie souterraine qu'on aperçoit au fil de la série, mais qu'on découvre véritablement dans le final. Évoquons maintenant le casting des fameux numéro 2. Le rôle de chaque numéro 2 est aussi important que le rôle principal du prisonnier et a été incarné par tout un tas d'acteurs et d'actrices remarquables capables de tenir tête à McGowan. Le numéro 2 incarne l'autorité parfois bienveillante et parfois inquisitrice des mystérieux dirigeants du village, d'où son rôle central dans les histoires de la série. On dénombre pas moins de 17 acteurs qui ont incarné ce personnage, dont 3 femmes. Mais n'allez pas croire que ce nombre de 17 corresponde exactement aux 17 épisodes de la série. En effet, le plus charismatique et célèbre des numéros 2, incarné par l'acteur Leo McKern, apparaît pour la première fois dès le deuxième épisode, Le Carillon de Big Ben, et effectuera une prestation incroyable dans les deux épisodes finaux. L'acteur Colin Gordon, à la moustache et aux grosses lunettes carrées, reviendra tout aussi nerveux et agité dans deux épisodes, le troisième, ABC, et le sixième, Le Général. Dans d'autres épisodes, il apparaît plusieurs numéros 2. C'est le cas dans le premier épisode, L'Arrivée, où le numéro 2 est joué par un homme intrigant qui a la quarantaine et qui accueille le prisonnier fraîchement débarqué. Il lui fait visiter le village depuis son hélicoptère et va se trouver aussitôt remplacé par un nouveau numéro 2, moustachu et jovial, juste après la tentative d'évasion du prisonnier par le même hélicoptère. Dans le quatrième épisode, Liberté pour tous, le numéro 6 croit avoir défait l'autorité du numéro 2, incarné par l'acteur Eric Portman, qui ressemble tout à fait au parfait homme politique en campagne, mais il se retrouve à nouveau face à un nouveau numéro 2, incarné cette fois-ci et pour la première fois par une femme, l'actrice brune Rachel Herbert, qui lui avait été présentée comme son assistante lors de sa victoire aux élections. Enfin, le dernier cas d'un épisode avec plusieurs numéros 2 est le 11e, intitulé L'Enterrement, dans lequel un vieux numéro 2 va partir en retraite et être remplacé par un jeune typique du look de l'époque avec ses grosses lunettes noires et ses cheveux blonds, incarné par Darren Nesbitt. Parmi les autres numéros 2 remarquables, il faut citer encore une femme dans l'épisode 8 « Danse de mort ». On y découvre une numéro 2 particulièrement inquiétante sous les traits de Mary Morris et qui va passer la plupart de l'épisode dans un étonnant costume de Peter Pan. Citons également la prestation de Peter Wingard dans l'épisode 9 Échec et mat, cet acteur ressemblant beaucoup au célèbre Martin Landau de Mission Impossible et reviendra dans beaucoup de séries britanniques de l'époque comme Chapeau melon et bottes de cuir. Enfin, il existe tout de même deux autres personnages récurrents aux côtés des nombreux numéros 2 qui se succèdent. Il s'agit tout d'abord du majordome du numéro 2, qui est un homme de petite taille incarné par l'acteur Angelo Musca, toujours habillé d'un costume en queue de pie et portant des gants blancs. Cet acteur aura marqué les esprits pour les fans de la série, mais n'aura pas le succès d'un Peter Dinklage aujourd'hui, puisqu'il disparaîtra à l'âge de 47 ans, dans la quasi-pauvreté et en n'ayant jamais eu de rôle important en dehors du prisonnier. Un deuxième rôle récurrent est celui du superviseur, le responsable de la salle de contrôle, qui est joué par un acteur chauve à petites lunettes très intrigant nommé Peter Swanswick. Lui aussi est apparu également dans Chapeau melon et bottes de cuir. Évoquons maintenant le nombre étrange d'épisodes que compte la série, à savoir 17, et le pourquoi du décalage total des 4 derniers épisodes avec l'ambiance du reste de la série. Il faut savoir qu'à l'époque, la plupart des séries possédaient entre 13, 26 ou 30 épisodes par saison, voire même un record de 39 épisodes par saison pour le fameux Zorro de Disney. Sachant qu'une année ne possède que 52 semaines, vous pouvez imaginer le rythme de production infernale de telles séries. On est bien loin des standards actuels des plateformes vidéo à 8, 10 ou au maximum 12 épisodes par saison. Pour Le Prisonnier, la maison de production ITC avait commandé à McGowan un nombre usuel de 13 épisodes pour la première saison. Mais devant les audiences catastrophiques enregistrées, les plaintes de téléspectateurs reçues par la chaîne, et aussi devant les tensions de la production des 13 premiers épisodes, il fut finalement convenu entre la chaîne et McGowan de ne produire que 4 épisodes supplémentaires pour tenter de finaliser l'histoire et permettre de vendre la série aux États-Unis, où la norme tournait plutôt autour des 26 épisodes par saison. Cela explique le ton décalé et déjanté des 4 derniers épisodes que j'ai déjà évoqués en début de podcast. Évoquons maintenant les audiences. La production chaotique et les très mauvaises audiences initiales n'empêcheront pas la série de devenir culte avec le temps. En France, la série a été diffusée pour la première fois sur l'unique chaîne ORTF en juin 1968, soit juste après les événements de mai et la révolte des étudiants. Le pouvoir du général de Gaulle n'y a vu qu'une série d'espionnage classique, mais la censure veillait quand même, car figurez-vous que l'épisode mettant aux prises le prisonnier avec un ordinateur appelé Le Général en anglais fut traduit en français par Le Cerveau, pour ne pas faire d'allusion au chef de l'État. Pendant des années, l'ORTF s'est servi de cette série comme bouche-trou, en diffusant les épisodes dans un désordre total. Il faudra attendre les rediffusions dans les années 80 dans l'excellente émission Temps X pour que le public français découvre enfin les épisodes dans l'ordre et qu'elles deviennent cultes pour de nombreux fans. La série est devenue tellement iconique qu'elle a servi de thème à une publicité Renault en 1990 au Royaume-Uni. On peut retrouver cette pub sur le net, je vous en partage un extrait.
What's going on?
Évoquons maintenant quelques thématiques. Et pour commencer, pourquoi McGowan a choisi le symbolique numéro 6? Il faut savoir qu'avant d'incarner le prisonnier, McGowan venait d'incarner John Drake dans 86 épisodes de Destination Danger, Danger Man en anglais. Il faut dire que les agents secrets avaient été remis au goût du jour, notamment avec deux séries américaines, Les Mystères de l'Ouest avec Robert Conrad, dont je parlerai sûrement dans un prochain podcast, et les agents très spéciaux avec Robert Vaughn et David McCallum, le futur homme invisible. Et du coup, à qui proposa-t-on le rôle au cinéma de l'agent 007 qui avait été incarné jusqu'alors par le grand Sean Connery? Eh bien naturellement, on proposa le rôle de James Bond à McGowan. Eh bien figurez-vous que celui-ci refusa tout net, car il ne se voyait pas tirer sans arrêt avec une arme à feu en séduisant de superbes créatures féminines à l'appel. Il faut d'ailleurs noter que McGowan se bat souvent avec ses poings dans Le Prisonnier et n'utilise quasiment pas d'armes à feu. Alors j'en viens au choix du numéro 6 par McGowan. Il ne l'a jamais vraiment révélé en interview, mais moi j'y vois trois interprétations possibles. La première, ce serait un clin d'œil à 007, le personnage qu'il a donc refusé d'incarner, et dont il aurait soustrait une unité pour choisir le numéro 6, au point même d'effacer totalement son vrai nom derrière ce numéro, et ce, contrairement à James Bond, qui rejette le plus souvent son matricule.
Je m'appelle Bond. James Bond.
La deuxième hypothèse est liée aux employeurs des espions britanniques, duquel fait d'ailleurs partie 007, à savoir le MI6, MI6 en anglais. La troisième et dernière hypothèse est de choisir volontairement un numéro en décalage avec le sacré. En effet, le 7 est un nombre sacré pour l'homme croyant depuis la nuit des temps. Les 7 péchés capitaux, les 7 jours de la semaine, et plus près de nous, les 7 mercenaires, les 7 nains de Blanche-Neige ou le film Seven. Donc McGowan aurait choisi le 6 comme un pied de nez au 7 qui lui est sacré. Je vous promets, je n'ai rien bu ni rien fumé avant d'élaborer ces hypothèses. Un deuxième thème important de la série est l'allégorie que représentent le village et les tentatives d'évasion avortées du numéro 6. Le village, c'est une métaphore de notre monde moderne où l'on se croit libre, mais où on est en fait prisonnier. En effet, comme dans le village, on est prisonnier de limites administratives totalement artificielles, comme les limites du cadastre, les limites de la ville ou les frontières d'un pays. Et en cas de crise grave de type pandémie ou terrorisme, ces frontières deviennent soudain infranchissables, comme les limites du village, quoi qu'on fasse pour s'en échapper. On peut penser à ces fameuses consignes de confinement, avec l'interdiction par l'autorité de l'État de sortir au-delà d'un kilomètre pendant plusieurs semaines. On peut aussi voir dans la sinistre boule blanche surgie des profondeurs une image de l'autorité quelle qu'elle soit, gendarmerie, police ou service secret, qui vont enquêter sur vous pour voir si vous avez bien respecté les règles et la morale ou si vous n'avez pas fait d'écart. L'étouffement que fait subir le rôdeur à ses victimes fait référence à la peur de l'autorité ou juste à sa présence oppressante dans les dictatures. C'est aussi une allégorie de la pensée humaine qui est souvent très réductrice et pour laquelle chacun se pose ses propres barrières. N'oublions pas la leçon du final. Le numéro 1, c'est vous. Vous êtes votre propre gardien. Vous aimeriez être libre de penser et d'agir comme bon vous semble, mais la morale ou la religion vous dicte vos actes. Vous vivez enfermé dans vos propres limites et dans vos propres croyances. Rarement une série n'aura été aussi loin dans l'allégorie et les leçons philosophiques qu'on peut en extirper, même si certaines séries modernes comme Westworld ou Black Mirror permettent aussi de réfléchir sur soi-même et sur la société. Voilà pourquoi Le Prisonnier a acquis son statut de série culte. D'abord parce qu'elle ne ressemble définitivement à aucune autre série, ensuite parce qu'elle fait réfléchir sans fournir de réponses vraiment concrètes, et enfin parce qu'elle s'adresse à chacun d'entre nous en parlant directement à nos pensées et à notre esprit, et tout ça va bien au-delà d'un simple divertissement télévisuel.
Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre!
Pour conclure, je vais évoquer la multitude de produits dérivés de la série. La plupart ont été créés dans les années 70. On y trouve des mugs, des t-shirts, des casquettes qui reprennent les symboles les plus populaires de la série, à savoir le grand B, le numéro 6 ou encore la phrase « Je ne suis pas un numéro ». Je passe rapidement sur la multitude de versions DVD qui ont été produites, la plus diffusée en France datant des années 2000 chez TF1 Vidéo, avec pas mal de bonus intéressants comme des reportages de notre maître à tous, Alain Carazé, et une interview téléphonique de McGowan par ce même Carazé. Mais je finirai ce podcast en vous recommandant essentiellement deux ouvrages exceptionnels. Tout d'abord, le magnifique livre d'art « Le prisonnier chef-d'œuvre télévisionnaire » de l'incontournable Alain Carazé et d'Hélène Oswald aux éditions Le 8e Art, édité en 1989. Ensuite, vous pouvez encore trouver, je pense, « Le prisonnier, une énigme télévisuelle » qui a été écrit en 2011 par Patrick Duchère et Jean-Michel Philibert aux éditions Iris. Voilà, j'espère que ce premier épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me passer un petit message sur Discord. Vous trouverez les liens en description de ce podcast. Si les retours sont positifs, cela m'encouragera à produire d'autres podcasts sur d'autres séries cultes. Alors, portez-vous bien et...
Bonjour chez vous.